4 heures ici à Paris, 2 heures en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, le Sénat de la République démocratique du Congo a voté la levée des immunités de Joseph Kabila. L'ancien président congolais est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'est du pays. Donald Trump se réjouit après l'adoption par la Chambre des représentants de son méga projet budgétaire. Au programme, des coupes drastiques dans la santé et les énergies renouvelables. Les secteurs de la défense et de la sécurité en sortent renforcés. Dans ce journal également en France, 55 hommes ont été interpellés pour leur appartenance à un réseau pédocriminel sur la messagerie chiffrée Telegram. Et puis nous irons au Festival de Cannes qui se déroule en ce moment. Le réalisateur indien Niraj Gewen défend les couleurs de son pays avec son film Homebound, un film qui dessine le portrait de l'Inde contemporaine. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté ce jeudi la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien président Joseph Kabila. Et lui qui est absent du pays depuis un an et demi, cela autorise des poursuites judiciaires à son encontre. Au cours d'un vote à bulletin secret, les sénateurs ont, à une très large majorité, répondu favorablement à la justice militaire. Elle accuse l'ancien président de crimes de guerre et complicité avec le groupe armé AFC M23. Alexandra Brangeon.
88 voix pour, 5 contre, les sénateurs ont à une écrasante majorité levé l'immunité de l'ex-président Joseph Kabila. Ils permettent ainsi à la justice militaire, qui avait demandé la levée de ses immunités, d'engager des poursuites contre l'ancien président et sénateur à vie. Celui-ci est accusé par la haute cour militaire de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel pour son soutien présumé au groupe armé M23 AFC, et ce, dans un contexte d'intensification du conflit dans l'est du pays. L'ancien président, qui se trouve en exil depuis 18 mois, n'a pas réagi, mais ses partisans au sein de son parti, le PPRD, contestent aux sénateurs le droit de lever les immunités de l'ancien président et qualifie cette action de chasse aux sorcières.
Conflit entre le Rwanda et la RDC au menu des discussions à Paris ce vendredi. Le président français Emmanuel Macron recevra son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Selon l'Élysée, il s'agit d'un déjeuner de travail sur le conflit des Grands Lacs et la relation bilatérale entre les deux pays. 52 morts ce jeudi à Gaza, selon la défense civile palestinienne. L'armée israélienne a émis un avis d'évacuation pour 14 quartiers du nord de l'enclave, y compris le camp de réfugiés de Jabalia. Seul espoir pour les Palestiniens, cette aide humanitaire qui a repris timidement. Près de 90 camions ont pu rentrer dans l'enclave menacée par la famine. Une première depuis 2 mois et demi suite au blocage imposé par Israël. Mais pour les Nations Unies, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Avant le déclenchement de la guerre, près de 500 camions d'aide humanitaire entraient chaque jour à Gaza. Une victoire politique pour Donald Trump. Le président américain salue un vote historique au Congrès au sujet de son grand projet de loi budgétaire. Au programme, lutte contre l'immigration, maintien des baisses d'impôts et coupes drastiques. Cette loi passe l'obstacle de la Chambre des représentants et cela n'a pas été facile. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Il aura fallu que Donald Trump se déplace lui-même devant les élus républicains de la Chambre mardi pour faire pression sur les plus réticents. Des élus qui lui sont pourtant d'habitude favorables, mais dont certains s'inquiétaient d'un possible gonflement des déficits avec les dépenses supplémentaires prévues par cette loi. Il a fallu aussi d'interminables discussions nocturnes pour trouver des aménagements susceptibles de les convaincre de soutenir le texte. C'est ce qu'ils ont fini par faire au petit matin. Cette grande et belle loi, comme l'appelle Donald Trump, a été adoptée par 215 voix contre 214 et une abstention. Deux élus républicains ont été défiants jusqu'au bout et ont voté contre avec l'ensemble des démocrates qui dénoncent des cadeaux faits aux plus riches et des réductions de la protection sociale des plus démunis. Les autres élus républicains récalcitrants ont fini par rendre les armes en grande partie pour ne pas déplaire au président et éviter qu'il soutienne une autre candidature que la leur aux prochaines élections de mi-mandat. C'est aussi une victoire pour le président de la Chambre, Mike Johnson, qui a permis cette adoption. Il pense que le texte sera sur le bureau du président pour la fête nationale le 4 juillet. D'ici là, il doit passer l'étape du Sénat où d'autres élus républicains entendent le modifier. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
La guerre en Ukraine où les ministres des Finances du G7 promettent d'augmenter la pression sur Moscou si la Russie refuse un cessez-le-feu avec Kiev. Les ministres réunis en ce moment au Canada indiquent avoir décidé avec l'Ukraine qu'aucun pays qui a financé ou fourni la machine de guerre russe ne pourrait prendre part à la reconstruction de l'Ukraine. En Roumanie, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours déposé par le candidat d'extrême droite George Simion, et ce après sa défaite au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. George Simion, fan de Donald Trump, demandait l'annulation du scrutin tout en dénonçant une influence étrangère de la France et de la Moldavie. L'élection a été remportée par le maire pro-européen de Bucarest, Nico Șordan, ce dimanche avec 53,46% des voix. En France, un prêtre, un professeur de musique, un ambulancier, célibataire ou bon père de famille, au total 55 hommes au profil très variés ont été interpellés depuis le début de la semaine, et ce pour leur appartenance à un réseau pédocriminel sur la messagerie chiffrée Telegram. Selon la police, tous ont été en lien avec des pédocriminels extrêmement dangereux incarcérés depuis l'été dernier. Paul Lossin-Spinelli.
Un coup de filet mené après 10 mois d'enquête. Tous les hommes interpellés sont accusés à minima de détention, diffusion et consultation habituelle de contenu pédopornographique.
La plateforme Telegram sur la pédocriminalité, c'est vraiment la profusion absolue, quoi.
Michel Séjean est professeur de droit à l'université de la Sorbonne, spécialiste en cybersécurité. Il rappelle pourquoi Telegram reste une plateforme privilégiée par ce type de réseau.
C'est devenu une marque en laquelle les gens croient. En fait, la marque consiste à dire que la messagerie est chiffrée de bout en bout et qu'elle est sûre.
Mais la réputation de Telegram trahit aussi ses utilisateurs criminels, ce qui permet aux enquêteurs de déchiffrer leurs échanges.
Une messagerie chiffrée de bout en bout. Quand le message est intercepté sur un des serveurs, il est illisible. Et Telegram n'offre ce service que pour une option bien particulière qui est message secret. Mais pour tout le reste, les chaînes de Telegram, elles sont en clair.
La plateforme reste régulièrement pointée du doigt pour son manque de coopération avec les autorités, même si cela a commencé à changer depuis l'arrestation du patron de Telegram, Pavel Durov, en France en août dernier. Dans une déclaration faite dans l'après-midi, Telegram assure systématiquement répondre à toutes les demandes judiciaires contraignantes depuis des années.
On termine en culture avec le plus grand festival au monde consacré au cinéma. 22 films sont en lice pour la Palme d'Or au Festival de Cannes. Le réalisateur indien Niraj Gewen défend les couleurs de son pays dans la sélection officielle avec son film Homebound. Le retour à la maison est une fresque qui suit deux jeunes hommes, amis d'enfance, appartenant aux plus basses classes de la société, bien décidés à voir leur destin changer. À travers ces personnages, le film dessine un portrait de l'Inde contemporaine. Isabelle Chenu.
C'est une grande histoire d'amitié entre deux jeunes garçons, mais aussi un drame que filme Niraj Gewan. Le premier plan donne d'entrée de jeu la dimension du pays. Des centaines de milliers de candidats indiens s'entassent dans des trains essayant de rallier le centre d'examen pour passer le concours d'agent de police. Un rêve qui permettrait à ces deux Dalits, la plus basse classe sociale indienne, d'avoir un salaire de fonctionnaire et d'être enfin respecté. Niraj Gewan.
I am a Dalit.
Je suis un Dalit. De par mon expérience de vie, je peux comprendre. C'est pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire. Personne ne raconte ces histoires. Si je ne raconte pas l'histoire de ma communauté, qui le fera ?
Le réalisateur indien filme une ample fresque qui montre notamment la condition des travailleurs migrants pendant la pandémie de Covid.
J'étais très prudent sur la façon d'aborder le chapitre du Covid. Nous n'avons pas envie de retourner à cette période. C'est trop récent, ça continue de faire peur, c'est un trauma. Donc je ne rentre pas dans les détails, je reste avec mes personnages et je raconte ce qui leur arrive, comment se déroule leur voyage.
Niraj Gewan n'était pas revenu à Cannes depuis 10 ans. 10 années ambivalentes pour l'Inde, dont l'incroyable croissance ne parvient pas à éradiquer la misère endémique. Isabelle Chenu, Apolline Verlon, Cannes, RFI.
Et le Festival de Cannes a également rendu hommage ce jeudi à Pierre Richard, ce pilier de la comédie populaire française qui incarne à la perfection le clown sensible. Son dernier film, L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, a été projeté en séance spéciale. Et c'est le premier film qu'il réalise depuis près de 30 ans. Il sortira dans les salles le 24 septembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI bientôt 4h10, à Paris 2h10, en temps universel.